Bonjour Lucile Rabier-Imanane.
Bonjour, monsieur Laurent Corot.
Pourquoi certains historiens estiment-ils que l'État mis en place par Philibert Tirahanan après l'indépendance a été un État néocolonial?
Il est pour l'indépendance, mais indépendance qui ne signifie pas du tout rupture, loin s'en faut, avec la France. Il n'y a pas de changement qualitatif clair entre le régime colonial et celui de la Première République. La présence française est à la fois économique, politique, culturelle. Et il y a toujours la Compagnie lyonnaise de Madagascar, la Compagnie marseillaise de Madagascar. Les grandes plantations dominées par les Français sont toujours là. La culture française, la langue française reste prépondérante non seulement dans l'enseignement, mais encore dans la culture qui règne à Madagascar en général.
Et quelle place est-ce que les conseillers français jouaient alors dans l'entourage de Tirahanan?
Que ce soit autour du président de la République ou dans les ministères, la présence française crève les yeux, les directeurs de cabinet ou les conseillers. Ils imprimaient la politique du gouvernement de Madagascar. Et d'ailleurs, Philbert, il ne l'a jamais caché. Il est fils politique spirituel du général de Gaulle. Et quand le général de Gaulle est mort, il a dit carrément au journal Le Monde, le général de Gaulle est mon père et ma mère, c'est lui qui m'a fait.
Qu'est-ce qui explique selon vous cette proximité de Tirahanan avec la France?
Bien sûr, on ne peut pas le comparer à Léopold Sédar Senghor. Il est vraiment un pur produit de l'enseignement à la française et de la culture française. Dans cette période de guerre froide, il se met du côté vraiment du monde libéral, du capitalisme. Mais aussi, c'est une vraie conviction chez Philbert que la culture française et la langue française, c'est ce qui relie Madagascar au reste du monde. Ce n'est pas de l'opportunisme, à mon avis.
Est-ce que cette doctrine, ça n'est pas quand même une forme de pragmatisme, la volonté d'entrer progressivement dans l'indépendance et la volonté de le faire en s'assurant du soutien financier de la France?
Vous parlez de pragmatisme. Mais justement, c'est ce qu'il pense, notamment en matière d'économie. Il trouve que Madagascar est pauvre, hein, et que justement, sans l'aide de la France, sans les investissements français, Madagascar ne s'en sortira jamais.
Lucile Rabier-Imanane, quel rôle est-ce que ce positionnement de Tirahanan par rapport à la France a joué lors des événements de 1972 qui vont conduire à son départ?
Les événements de 72. C'était contre cette présence française permanente, on pourrait dire, non seulement dans les ministères ou etc., mais encore dans l'enseignement et la place prépondérante du français, non seulement comme langue d'enseignement, mais encore dans les programmes d'enseignement même. Par exemple, l'histoire de Madagascar ou l'histoire de l'Afrique était très très peu représentée dans les programmes d'enseignement. Et à l'université, les programmes d'enseignement pratiquement étaient ceux de l'université d'Aix-Marseille. Il n'y a eu de vrais enseignants de l'enseignement supérieur que bien plus tard, après 72. La malgachisation de l'enseignement faisait partie d'un des chevaux de bataille des manifestants de 1972.
Certains qualifient cette période de deuxième indépendance. Est-ce que ça vous semble justifié?
Oui, tout à fait. Enfin, deuxième indépendance, on a cru à ce moment-là que c'était la deuxième indépendance. On a cru, mais bon, il y a eu la Seconde République, la nationalisation des grandes entreprises coloniales, la sortie de la zone franc et les relations diplomatiques avec l'URSS, la Chine, avec les pays de l'Est. Et la conséquence, c'était la pénurie et finalement, à partir de 83-84, le retour dans le camp de l'Ouest. Et là, à partir de la Troisième République et maintenant, on essaie d'attirer les capitaux français à côté des capitaux chinois ou japonais.
60 ans après l'indépendance, est-ce qu'on peut dire que Madagascar a maintenant trouvé sa place sur l'échiquier international?
Je pense que Madagascar est toujours en train de se chercher. Et avec la mondialisation, c'est pire. C'est parti des 5 pays les plus pauvres du monde. En 60 ans, Madagascar a dégringolé dans le domaine économique et social, alors que nous sommes un pays qui détenons de ressources du sol et du sous-sol. Faudrait vraiment qu'il y ait des investissements qui profitent aux gens, quoi, et pas seulement à une minorité.
Merci, Lucille Rabia-Rimanan.